Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'âge de l'autonomie est un moment charnière pour les jeunes que nous accompagnons à l'AMO. C'est un moment de rupture où, pour certains jeunes, les projections de l'époque adolescente s'écrasent. La contrainte guide les choix et les relations s'évanouissent. Entre éclatement familial, manque de ressources et d'institutions adaptées, difficulté d'accès aux droits, les trajectoires individuelles perdent leur sens et errance et débrouille deviennent les seules ressources disponibles pour ces jeunes. Voulons-nous vraiment vivre dans une société qui broie leurs désirs? Ne pouvons-nous pas plutôt compter sur leur énergie pour nourrir une société vivante? C'est sur tous ces enjeux que Saint-Marcon souhaite attirer votre attention dans ce podcast.
Le rythme du quotidien pour arriver tout le matin. Des pas qui tapent sur le sol, suivre les heures, les ombres folles, se concentrer.
Justement, par rapport à ce soutien qu'on a pu avoir en tant qu'AMO, tu fréquentes cet AMO depuis combien d'années maintenant?
Je pense que ça va faire... Oui, ça va faire 10-11 ans quand même.
10-11 ans. Comment tu pourrais nous aider à... On pourrait se dire qu'on pourrait ne plus exister. Est-ce qu'on pallie à une difficulté que vivent d'autres structures? Par exemple, par rapport à l'école. Rappelle-moi en quoi nous avons pu être un soutien pour toi.
C'était quand même un endroit où j'avais quand même accès à de l'écoute. Ou quand je parlais, eh bien on m'écoutait. Donc, je veux dire, ma voix, elle avait autant de valeur que celle des personnes à qui je parlais, quoi.
La valorisation. Mais est-ce que ce serait ça, alors, un des problèmes? Enfin, je ne dis pas que c'est un problème de l'école, mais l'école doit davantage valoriser les individus. Et cette écoute, est-ce que tu y as eu droit dans tes structures scolaires?
Je trouve que oui, quand même, hein, parce que justement, le fait de dire à un élève qu'il est nul, qu'il ne va pas réussir, d'un côté, ça peut-être être une force pour l'élève de dire « oui, je vais lui prouver qu'il a tort ». Et dans un autre sens, il y a des personnes qui sont un peu plus faibles mentalement et qui vont le prendre sur elles et qui vont vraiment le penser. Et ça va leur nuire beaucoup au psychique.
Tu dirais que toi, tu as manqué de soutien dans tes différents établissements scolaires?
En tout cas, j'ai quand même eu de la chance. Il y a certains professeurs qui étaient quand même là, qui m'ont essayé quand même de m'encourager, ou alors qui mettaient des commentaires dans le bulletin en me disant « on sait qu'il a les capacités de faire ça en classe, il répond plutôt bien aux questions, il est capable, il lui faut juste un petit coup de pouce, et s'il a besoin d'aide, on est là pour lui ». Mais c'était pas ça chaque année, quoi. C'était vraiment un prof ou deux en particulier qui voulaient vraiment m'aider.
Est-ce que tu as l'impression que parfois c'est nécessaire de sortir du cadre, même du cadre scolaire, ce qui est demandé aux profs? Parce que prendre le temps plus, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour les profs à ton avis? Est-ce que c'est pas sortir un peu du cadre pour expérimenter ou donner plus de soi? Je sais pas si tu me comprends.
Oui, je vois un peu ce que tu veux dire, et en soi, ça dépend en fait de chaque professeur, parce que clairement, il y en a certains qui ont du mal avec ça, qui ont du mal avec les relations prof-élève, même dans leurs relations à eux-mêmes. Donc ça dépend en fait d'un prof à l'autre. Moi, personnellement, j'ai une prof de chimie qui en fait m'a quand même eu 3 ans, et donc elle me connaît un peu, elle voit... Enfin, oui, c'est ça, 3 ans. Et en fait, elle m'a eu pendant minimum 2 ans. Et alors, elle sait un peu comment est-ce que je suis. Et elle s'est dit, mais lui, je ne comprends pas. Les interrogations, ça se passe bien. Quand on est en classe, il comprend plutôt bien. Et puis, à l'examen, ça se passe mal. Et alors, elle a quand même cherché à vouloir savoir qu'est-ce qui se passait. Elle a quand même pris du temps sur son temps à elle pour rester un peu plus longtemps à l'école, pour qu'on puisse avoir une discussion. Et je pense que c'est des choses qui pourraient être... possible, mais après, c'est vrai que c'est pas au prof de le faire, mais il peut le faire. Enfin, voilà, je veux dire, s'il y a un certain cadre qui est posé, s'il y a vraiment cette idée que, ok, là maintenant, je reste ton prof, mais on va passer, là maintenant, je suis plus en tant que prof, mais en tant qu'une personne qui peut t'aider à aller mieux, là, ça peut être bien.
Et ça, j'aurais envie de faire le switch sur le monde professionnel. Est-ce que tu ferais un lien, justement, avec le milieu professionnel? Est-ce que le milieu professionnel, tu y perçois des choses un peu difficiles et un peu mécaniques, éloignées justement de cette attention à l'autre?
C'est vrai que par exemple, là maintenant j'ai un job étudiant du coup, donc je peux un peu expliquer. Et c'est vrai que par exemple, pour féliciter, de dire que oui, on est content que tu es là et tout, c'est un peu difficile parfois. Mais bon, je peux comprendre, hein, parce que voilà, c'est ma première fois que je travaille avec ces gens-là, donc je peux comprendre qu'ils ne veulent pas tout de suite me donner des fleurs pour qu'après je me dise « Ah, c'est bon, j'ai assez prouvé », quoi. Donc ça, je peux comprendre. Mais c'est quand même assez chouette qu'il y ait au moins une personne qui me dise, oui, ok, dans l'équipe, ils sont contents que tu sois là, tu travailles bien, ils sont contents, donc continue comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a une dimension du plaisir sur le travail ? Parce que là, pour le moment, c'est une nécessité pour toi ? Ou est-ce que tu découvres cette notion de plaisir ? Ou qui t'invite à poursuivre et sans penser forcément aux sous-sous ?
Bah, c'est vrai que pour le moment, c'est vrai que c'est une nécessité, mais c'est vrai que quand je travaille, je me sens pas en mode « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, quoi ». Donc c'est vrai que c'est quand même assez chouette, une équipe est quand même assez chouette. Je travaille dans un centre de formation néerlandophone et c'est plutôt assez sympathique. Et ça me permet aussi de travailler mon néerlandais. Et l'équipe est vraiment chouette, ils sont assez compréhensifs. Donc je trouve que c'est assez chouette. Donc j'ai trouvé quand même une partie de plaisir dans le travail. Donc vraiment, je veux dire, il y a un certain sentiment de satisfaction de se dire « Ok, j'ai fait ça et j'ai réussi à le faire en fait ».
Est-ce que c'est le parcours du combattant pour accéder à l'emploi, même si c'est un emploi sur la durée qui est réduit avec, est-ce que ça a été difficile de trouver un emploi ?
Bah, à vrai dire, oui. Hein, je pense que j'ai quand même essayé de trouver un emploi. En fait, j'ai commencé à chercher tout seul, mais je ne trouvais pas parce que je ne savais pas comment est-ce qu'on devait faire. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je me suis dit « Ok, je vais regarder sur les sites pour les jobs étudiants. » Et puis je vois en général que oui, il faut avoir déjà telle qualification, il faut avoir autant d'expérience. Et ce genre de choses, ça démotive un peu parce que tu te dis « Oui, moi, je viens à peine de commencer à travailler. Comment est-ce que je fais pour avoir cette expérience-là » Et du coup, de fil en aiguille, cette année, j'ai vraiment tout fait pour aller faire un CV, le faire corriger et ensuite... m'inscrire dans des entre guillemets des centres d'intérêt, mais pour les jobs étudiants, pour qu'ils cherchent des boulots pour moi, me dire ok, voilà, il y a telle offre, est-ce que tu es intéressé, et si moi je suis intéressé, bien j'envoie un mail et ensemble on fait une lettre de motivation et on complète le CV s'il doit être complété. Donc en tout cas, moi je dirais c'est quand même assez compliqué parce que niveau milieu francophone, par exemple, il y a quasiment plus de place. De ce qui reste, c'est vraiment, il faut peut-être avoir un master ou quoi pour pouvoir commencer à faire ce boulot. Mais en tout cas, je pense que la difficulté, c'est de savoir où chercher, avoir un bon CV. Mais quand je dis un bon CV, c'est pas forcément rempli de
d'expérience,
mais c'est vraiment la présentation aussi. Parce que si on dit, par exemple, que j'ai... Si par exemple, mais dans le CV, j'ai travaillé dans une boulangerie pendant 2 ans, ça passe pas. Par contre, si on met la date pendant laquelle on a... Enfin, par exemple, si on met l'année où on a travaillé là et qu'on dit, ok, moi j'ai travaillé en tant que peut-être vendeur et j'ai dû gérer ça, là ça passe mieux parce que du coup, l'employeur, lui, quand il voit ça, il comprend, ok, toi tu as déjà compris comment est-ce que ça fonctionne et du coup, on peut te proposer telle ou telle tâche, quoi.
Et il sait se projeter aussi.
C'est ça.
Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu connais autour de toi des gens qui travaillent et qui pourtant ont du mal à boucler les fins de mois ?
Oui, tout à fait. Il y a l'un de mes oncles qui est radiologue et qui a beaucoup de mal à finir ses fins de mois, quoi. Donc, on va dire qu'il a quand même un salaire conséquent, mais je veux dire, il avait quand même parfois des soucis et parfois il demandait un peu d'argent à ma mère alors qu'elle, elle n'a pas beaucoup déjà. Donc oui, tout à fait, je connais plein de gens comme ça qui galèrent, quoi. Y a qui d'autre encore ?
Enfin,
y
en Mais a c'est d'autres. Un exemple important, Anthony. Je voulais revenir, moi, c'est sur l'aide sociale, le logement et la finance, si tu veux dire. C'est un sujet qu'on a regroupé. Ce sont différents sujets qu'on a regroupés. Par rapport au revenu social, Anthony, est-ce que toi, tu as pu bénéficier d'un revenu social ?
Eh bien, pour le moment, c'est en cours, en fait. Donc là, je suis en train d'introduire une demande pour avoir accès à ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les jobs que je faisais, c'est vrai que c'est déjà pas mal, mais pour le moment, je m'en sors pas, en fait. Parce que niveau inflation, les cours aussi, mon horaire de cours qui commence à être vraiment très chargé, j'ai quasiment plus le temps que pour étudier, et même dormir, je sais pas si je vais avoir le temps.
Et quand on parle d'aide sociale, c'est notamment le CPS, c'est ça hein ?
Oui, c'est ça, CPS, mutuelle... Il y a aussi moyen d'avoir de l'aide de l'ONEM, mais bon, ça, il faut quand même avoir déjà travaillé.
Qu'est-ce que tu penses des services auxquels tu as droit et de ton accompagnement, de ta réception aussi, quand tu vas les voir, est-ce que ça se passe bien ?
Eh bien, pour le moment, ça c'est vraiment une. Enfin, pour le moment, non, ça s'est pas très bien passé. Donc, quand je suis allé auprès du CPAS de ma commune, ça s'est pas bien passé, quoi. Quand je suis arrivé là-bas, déjà l'accueil était assez glacial. Donc, on arrive là-bas, on nous juge déjà par rapport à comment on est habillé. Donc,
Comment tu le sais qu'on vous juge?
bah, en fait, enfin, quand je me rends à la réception, je vois que la personne, elle me regarde quand même de haut et du coup, je me dis, ah oui, d'accord, c'est comme ça. Et je dis oui, je viens pour un rendez-vous et voilà, je viens voir telle ou telle personne. Et on me dit en fait, non, elle n'est pas là aujourd'hui alors que le rendez-vous était programmé. Et du coup, je me dis, ah d'accord, bon.
Du coup, tu as l'impression, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un défaut de respect enfin, parce que tu fais appel à une aide sociale, est-ce qu'on te considère comme autrement?
Bah, j'ai bien l'impression, en fait, parce que ce qui est triste, c'est que ce sont des droits auxquels on peut bénéficier directement. Mais le truc, c'est que quand on arrive là-bas, en fait, on est face à tellement de gens qui nous jugent qu'on se dit, en fait, qu'est-ce que je fais là? En fait, j'ai juste envie de partir parce que c'est assez oppressant. On se sent moins que rien alors que c'est des choses auxquelles on a droit, en fait. Moi, personnellement, avant mon job étudiant, je ne travaillais pas. Pour ma mère, c'était difficile de joindre les fins de mois parce qu'il y a des dettes qu'il faut payer. Et c'est chaud, quoi, parce que comment est-ce que tu veux faire si tu dois t'occuper déjà de s'occuper d'un enfant, c'est déjà compliqué, alors trois ou plus encore, c'est encore plus compliqué, et seul en plus, devoir payer des dettes, être malade, c'est plein de choses qui s'ajoutent, qui font que c'est compliqué, et donc quand on arrive dans un service où en fait on est déjà rejeté au départ, c'est difficile, quoi. Donc c'est même moi qui est, on va dire, beaucoup de patience, même je me disais, mais attends, je suis poli, je n'embête personne, je viens demander quelque chose à quoi j'ai droit, et c'est comme ça qu'on me traite, quoi. Donc, enfin voilà, enfin j'ai pour dire, bah, j'ai quand même envoyé une dizaine de mails à cette personne, enfin à l'assistante sociale, et elle ne m'a jamais répondu, quoi. Et le souci, c'est que au sein du CPAS, on ne l'avait même pas remplacé ou prévenu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui. Enfin, que moi j'envoyais des mails, en fait. Donc, du coup, elle est en congé et moi je ne sais pas et on ne la
Et la
relaie pas.
personne qui la remplace ne le sait pas non plus que tu
C'est
as envoyé
ça.
des mails.
Même, on ne savait même pas. Oui, voilà, c'est ça. On ne sait même pas qui la remplace. Donc, c'est un peu. Il n'y a pas de communication. On sent que c'est assez fermé.
Est-ce que tu as l'impression que parfois les gens n'aiment pas leur travail? Mais ça, je ne devrais pas te le dire. Est-ce que ça joue aussi?
Bah, j'ai l'impression que d'une part ça peut jouer et en même temps il y a parfois des gens qui sont un peu sadiques quand même, hein. Donc je veux dire, autant il y a des gens qui n'aiment pas leur travail mais ils le font parce qu'en fait ils se disent que même si je ne l'aime pas, la finalité c'est qu'il y aura quand même quelqu'un qui va pouvoir se sentir bien. Donc ça peut les motiver en soi.
Après, ce qui est troublant, c'est quand tu utilises le mot sadique, qui est quand même très fort. Après, je ne sais pas si cette personne effectivement est sadique, mais c'est que tu aies cette impression-là. Et moi, ça me parle beaucoup et ça veut dire quelque chose. Parce que d'autres personnes ont peut-être des sentiments aussi tendus par rapport à leur accueil dans des services comme les CPS.
Oui, c'est ça.
Et ça pose question. Parce que, après, voilà. Merci en tout cas Anthony pour ton témoignage. Et pour terminer, j'aurais voulu te poser quelques questions sur les sous, sur l'argent.
D'accord.
Tu dirais que l'argent, c'est trois petits points.
C'est devenu une nécessité.
Pour avoir quoi? Pour avoir le minimum?
Eh bien, oui, en fait, c'est ça, le minimum. Parce que sans argent, on ne sait pas manger. Sans argent, on n'a pas de logement. Sans argent, on a des difficultés pour accéder à l'enseignement. Sans argent, enfin, en fait, on n'a rien sans argent.
Et tu as nommé les choses premières, les choses principales, mais tu n'as pas dit sans argent, on n'a pas accès aux loisirs, on n'a pas accès au plaisir.
Oui, c'est ça. Par
Alors,
exemple, les loisirs, ça peut par exemple être aller au parc. On n'a pas besoin d'argent pour ça.
non, mais il y a d'autres loisirs qui demandent quand même qui ont un coût.
Oui, c'est vrai. Par exemple, aller
Le
au cinéma.
théâtre, au cinéma, même si tu peux bénéficier de l'article 27 ou ce genre de choses.
Mais il faut quand même payer une petite partie qui est une contrepartie. Je pense que c'est 1,25 €.
Et tu penses que même ça peut poser question chez certaines personnes? Le fait d'avoir des articles 27, mais d'avoir quand même 1,27 € 1 € et quelques à payer?
Ben, je pense que tout de même, oui, hein, parce que bon, avant qu'il y ait l'inflation, Je pense qu'un paquet de pain, c'était quand même 79 cents. Donc, imaginons, la personne, elle a 5 euros. Elle va préférer acheter le plus de paquets de pain possible pour pouvoir nourrir sa famille que d'aller se faire plaisir au cinéma avec toute sa famille.
On est en 2023 et j'entends, tu sais qu'on fait de la radio aussi hein, avec des jeunes sous d'autres formats, et il n'est pas rare que j'entende des jeunes adolescents me dire que vers le 20, avant la fin du mois, maman, elle a du mal à boucler les courses et à acheter de quoi manger, et que le frigo il est vide. Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de cette information?
Je trouve que, bon, en tout cas, moi, personnellement, je peux tout à fait m'identifier à ça parce que ça nous est arrivé plusieurs fois, en fait. Donc, faut savoir que, bah, comme je l'ai dit, on est plusieurs enfants et ma mère, elle est seule. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de charges. Il y a, par exemple, des voyages quand on est en secondaire qu'il faut payer. Il y a des factures qu'il faut payer, factures d'eau, électricité, gaz, internet, télévision, s'il y en a une.
Et tu as ressenti, toi, ces difficultés dans ta propre maison?
Oui, tout à fait.
Quelle influence ces difficultés-là, elles peuvent avoir sur la transition à l'âge adulte?
Eh bien, ça peut pousser l'enfant, en fait, à chercher à tout de suite travailler, trouver tout directement un moyen de se procurer de l'argent pour être sûr, s'assurer qu'il n'est assez à la fin du mois, du coup, mais aussi pour possiblement peut-être aider ses parents, en fait.
Est-ce que c'est son rôle?
Non. Non, du tout. Justement, ce que ma mère me dit à chaque fois, c'est que c'est pas à toi de payer ça, c'est pas à toi de payer ça, c'est à moi de m'occuper de toi, tu es mon enfant, et c'est mon rôle, quoi. Mais c'est vrai que l'enfant a cet instinct inné de vouloir satisfaire ses parents aussi, mais je voulais dire plutôt les soulager, parce qu'ils voient à quel point ils se donnent, à quel point ils font des efforts pour s'occuper d'eux, et eux-mêmes aussi ont envie de leur rendre l'appareil, quoi.
Merci beaucoup, Anthony. C'était le podcast sur la transition à l'âge adulte. À bientôt.